Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bon.
Ah oui. Mais bon, Nadia, c'est oui. KVS, ça veut dire à votre santé. Le mardi, c'est à votre santé sexuelle. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. On commence toujours avec les précautions d'usage, hein, puisque vous nous écoutez à l'heure du déjeuner. Précautions d'usage pour les oreilles sensibles qui sont en train de déjeuner en famille. Nadia Elboguet avec nous. Bonjour, Nadia.
Bonjour, Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Quoique le sujet d'aujourd'hui, on peut en discuter en famille.
Oui. C'est vrai, il n'y a pas d'âge pour poser des questions. Et surtout pour y répondre.
Exactement.
Je rappelle que vous êtes sage-femme et sexologue clinicienne. Et en ces temps d'inflation, tout augmente, hein, puisque l'année dernière, notre invitée répondait à 100 questions. Et cette année, c'est à 130 questions qu'elle répond. Vous voyez, ça augmente. Notre invitée s'appelle Charline Vermont. Bonjour et bienvenue.
Merci, bienvenue. Merci de me recevoir dans votre émission. Merci Nadia, merci Philippe.
Vous êtes sexothérapeute, formatrice en santé sexuelle. Vous éduquez à la sexualité positive, qu'on essaiera de définir tout à l'heure. Animatrice du compte Insta Orgasme et moi. Les parents vous disent merci. Grâce à vous, terminez les GMSP, les grands moments de solitude parentale. Et vous publiez aujourd'hui Corps, amour, sexualité. Il n'y a pas d'âge pour se poser les bonnes questions. Comme on disait tout à l'heure, votre éditeur, c'est Albin Michel. Et on a clairement changé d'époque avec votre livre. Enfin, moi je trouve, ça c'est mon impression, je trouve qu'on a vraiment changé d'époque. Il y avait les livres avant qui parlaient de sexualité et il y a maintenant.
Ah ouais, c'est The Livre.
En fait, c'est la continuité, sans doute, du premier livre qui s'adressait à la fois aux enfants de 5 à 14 ans et leurs parents, et d'ailleurs à toute personne qui gravite au contact des enfants, les pros de santé, les éduques, etc. Et en fait, quand j'ai sorti ce premier livre, il y a beaucoup de parents qui lisaient le livre avec leurs enfants qui me disaient « Mais Charline, on a appris tellement de choses !» Et je me suis dit « Waouh !» Alors, si les grands apprennent, alors que clairement, en fait, le contenu, il a été mais spécifiquement fait pour les enfants, alors ça veut dire que nous, les grands, nous avons besoin de notre livre à nous. Et ce livre à nous, pour les grands, c'est le nouveau, effectivement, c'est Corps, amour, sexualité. Il n'y a pas d'âge pour se poser des questions, qui s'adresse à tous les adultes et qui est accessible à partir de la majorité sexuelle, à partir de l'âge de 15 ans.
Voilà, et du coup, Charline, elle corrobore ce qu'on dit depuis 10 ans maintenant, hein, c'est que l'éducation aux sexualités, c'est à tout âge, voilà, jusqu'à ce que on s'envole. Voilà, on martèle ça depuis 10 ans maintenant. Ça a toujours étonné tout le monde de dire éducation aux sexualités pour des adultes, pourquoi faire ?
Aux sexualités.
Ouais. Alors oui, voilà. Alors. Pourquoi voilà, c'est le tout petit, c'est le seul élément que j'aurais à reprocher parce que franchement,
il y avait tout, il n'y avait pas les préliminaires, il y avait tout, mais il fallait.
Ah non, mais il est au top le livre. Hein. Moi, je le dis en tant que professionnel de santé, il est au top du top du top. Il y a pas de livre équivalent sur le marché actuellement.
Merci.
Clairement.
C'est pour ça que je trouvais qu'on avait changé d'époque.
J'ai pas été payé par Albin Michel ni par Charline.
Ah bon
hein. Voilà, non, mais c'est juste pour.
Votre éditeur, c'est Grasset, c'est pour ça.
Pour préciser, mais. La question qui m'est tout de suite venue, alors peut-être parce que c'est ma déformation en tant que sexologue et sociologue, pourquoi éducation à la sexualité ? Parce que quand on dit la sexualité, dans mon référentiel en tant que sociologue, derrière, il y a l'hétéronormativité en fait.
qui est complètement
déconstruire tout ça. Ouais.
Oui.
Pourquoi pas éducation aux sexualités ?
C'est sexualité au sens effectivement très large. Hein. C'est vraiment comme ça qu'il faut l'entendre. Et au fil de ce livre, effectivement, on va détricoter toutes les injonctions, toutes les normes finalement dans lesquelles on grandit parce qu'on vit dans une société qui est quand même très cis, hétéronormée. Où il y a encore beaucoup en fait de stéréotypes, de standards autour de la sexualité et quand on se lance généralement dans nos premières relations, on n'a pas forcément à ce moment-là eu les infos et comme je le dis au début du livre, on a fait comme on a pu. Finalement, tout le monde, on a fait, on s'est débrouillé, système D, on a chopé des infos à droite, à gauche, pas forcément les bonnes, pas forcément les bons modèles. Et puis, il y a un moment, en fait, où, au gré des rencontres, au gré des lectures, au gré des comptes Instagram, n'est-ce pas, qui arrivent pour prendre vraiment le pouvoir, en fait, et surtout redonner le pouvoir aux gens sur leur corps, leur plaisir, leur désir, leur sexualité au pluriel, on va pouvoir enfin avoir accès à une sexualité qui soit à la fois safe, qui soit consentie et épanouissante pour tout le monde.
D'autant plus que vous mettez la première fois au pluriel.
Ah bah les premières fois. Ah ouais, les premières fois.
Ouais, donc on peut y aller pour les sexualités. Vous définissez la sexualité positive, l'éducation à la sexualité positive, ça veut dire qu'il y aurait une éducation à la sexualité négative ?
Absolument. Enfin moi j'insiste là-dessus, c'est-à-dire finalement, il y a un saut du tabou, de la honte qui a pendant des années, enfin jusqu'à très récemment, marqué tout ce qui touchait à la sexualité. Mmh. C'était un sujet soit dont les parents ne parlaient pas, donc en fait la seule chose qu'on rencontrait c'était le silence, soit il y avait du jugement, il y a encore beaucoup de jugement d'ailleurs sur la sexualité. Il y a également un côté négatif, alors je ne sais pas si c'est négatif, mais la dominante durant, on va dire, toute la fin du XXe siècle, quand l'éducation aux sexualités est apparue, enfin sont apparues, c'est il y avait un axe d'approche par les risques. On était dans un axe prévention. Finalement, on parlait de tout le négatif en fait qui pouvait nous arriver.
À l'époque, on disait MST. C'était avant les IST,
c'est
d'ailleurs.
C'est ça, exactement. Ouais. Donc, on parlait de quoi ? On parlait effectivement du risque de grossesse. On parlait des risques, effectivement, d'IST. Mm. On parle de prévention des violences sexuelles. Finalement, tout ça, c'est hyper important. Il est nécessaire d'en parler, mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga. Mm. De l'éducation, il faut également parler, et c'est d'ailleurs ce que je fais dans les établissements scolaires, quand je leur dis mais pourquoi on parle autant de sexe, à la fois c'est omniprésent et c'est très tabou. Pourquoi on en parle autant? Parce que c'est peut-être aussi au cours de votre vie, au cours de notre vie, eh bien, une des expériences de plaisir, de jouissance la plus intense qu'on va pouvoir vivre avec soi-même et avec les autres. Et cet axe, il est également nécessaire d'en parler. Voilà.
Enfin, quand même, les nouvelles générations, je pense qu'elles n'ont pas assez conscience des IST aujourd'hui et que là-dessus, il ne faut jamais baisser la garde. Hein.
On ne baisse jamais la garde.
Il y a une vraie recrudescence des IST. Alors c'est vrai, c'est bien de parler de tout le reste, mais
en fait c'est ça, il faut essayer de trouver un juste
la
équilibre.
La base, c'est de dire que ça existe toujours les enfants.
Autant en parler de façon très
très médicalisée,
médicalisée et sous la forme effectivement de danger absolu, et donc la sexualité s'est entachée de tout ça. Finalement, on ne voyait que le prisme négatif du contact et de la relation à l'autre. Autant maintenant, il y a un relâchement effectivement générationnel sur ces questions, où on a cette idée qu'on est invincible et que rien ne peut.
Ça soigne.
Oui. Ouais, en fait, en l'occurrence, il y a tout un chapitre dans le livre
qui est
extrêmement détaillé. Ouais. Et d'ailleurs, sur mon compte, c'est un vrai combat. Je rappelle quand j'ai commencé le compte Orgasme et moi, il y a 4 ans et demi, que je leur ai demandé, avez-vous déjà fait un dépistage au cours de votre vie? Donc, je m'adresse à des personnes qui sont essentiellement sexuellement actives. Le résultat était très faible, c'était de l'ordre de 20%. Et bien aujourd'hui, ma communauté que je fais grandir, on grandit collectivement ensemble, on parle de ces sujets-là très régulièrement, parce que l'éducation, c'est la répétition. Voilà, j'arrive à des taux qui dépassent les 50%, donc il y a une vraie prise de conscience d'un sujet à part entière. Je rappelle qu'en France, et c'est important, on est dans un pays où les pouvoirs publics sont engagés sur ce terrain-là, c'est-à-dire on a des Cégide en France, voilà, à vos auditeurs, auditrices.
Alors Cégide, pour tout le monde, Charline.
C'est des centres de diagnostic et de dépistage, donc on va en Cégide, toute personne peut y aller, quel que soit son âge, y compris les personnes mineures, et de manière gratuite et anonyme, eh bien, on a des dépistages complets. Si on n'a pas de Cégide à côté de chez soi, il y a des personnes qui vivent en zone rurale, vous pouvez également avoir une téléconsultation, une consultation médicale, aller au labo avec votre ordonnance et faire ça, et c'est remboursé à 100%. J'insiste, rien n'est gratuit, c'est-à-dire rien n'est c'est ça, zéro pour...
C'est pas parce que vous payez pas que ça n'a pas un coût.
C'est un coût, et c'est un coût qui est pris par les pouvoirs publics.
C'est pris en charge, c'est juste ça la différence.
Exactement, et franchement, j'ai envie de dire, mais profitez-en. Si vous allez en Suisse, chez nos voisins, ils vont vous dire que pour un dépistage complet, ça va coûter 450 CHF. Concrètement, en France, on a l'immense chance d'avoir des pouvoirs publics engagés sur ce terrain-là. C'est important, c'est une question de santé publique.
Tout à fait.
D'ailleurs, oui, il faut faire un dégagement là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a du relâchement chez les jeunes, qui sont passés à autre chose en fait.
Tout à fait. Bah, dans le chapitre prévention des risques d'IST et grossesse, Charline, accompagnée donc de l'illustratrice.
Oui, Stomy Buzzy, Juliette voilà. Mercier, qui a fait un travail extraordinaire.
Ah, vraiment.
Moi, j'avais dit à Albin, écoutez, on va faire un livre qui, effectivement, soit un ouvrage de référence ultra complet. Donc, ça fait 320 pages. Je leur ai dit, mais personne ne lit aujourd'hui. Le seul moyen de rendre le livre accessible et que tout le monde puisse se l'approprier, je veux des dessins partout. Voilà. Et du coup, on a emmené...
Et des QR codes.
Des QR codes, effectivement.
Il faut le dire, parce que c'est aujourd'hui, il est interactif.
Il est interactif, c'est-à-dire, il y a un sujet, typiquement, bah voilà, j'ai envie d'aller en Cégide pour me faire dépister. Je ne l'ai jamais fait. Si c'est votre cas, vous allez en Cégide, c'est une très bonne idée. Il y a un QR code, bim, et vous trouvez le Cégide à côté de chez vous, vous prenez rendez-vous. Effectivement, il y a un besoin d'interactivité.
Très pratique, vraiment très pratique.
Et voilà, je me suis dit, mais 200 illustrations. Voilà.
Bah là, par exemple, sur la question des IST, il y a un tableau qui est vraiment très, très accessible, très bien fait.
Et, Nadia, vous êtes en train de montrer pour ceux qui verront la vidéo comme ça, vous avez le tableau.
Exactement. Ouais. Et puis voilà également des illustrations très explicites et claires. Donc il est vraiment bien fait.
Bon, Charline est notre invitée, elle aussi, ça fait longtemps qu'on l'attend, Nadia, mais tout vient à point. Celui qui sait attendre.
Exactement.
À l'occasion de la sortie de votre nouveau livre que vous montrez, qui s'appelle Nadia.
Alors, qui s'appelle Corps, Amour et Sexualité.
Voilà, Corps, Amour et Sexualité. Et le sous-titre est aussi important, d'ailleurs.
Tout à fait. Donc, il n'y a pas d'âge pour se poser des questions.
Voilà, alors on ne va pas en poser 130 ce matin, mais on va en poser pas mal jusqu'à 13h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Allez, Charline est avec nous, Nadia, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre. Et Corps, Amour, Sexualité, il n'y a pas d'âge pour se poser les bonnes questions. Donc il y en a 130 des questions. Et puis il y a encore des questions dans les questions. Donc il y a vraiment énormément de questions. J'ai appris énormément de nouveaux mots. Alors quand même, nous on fait des émissions toutes les semaines. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un livre de référence. Et on a vraiment changé d'époque. Alors il y a quelque chose que je ne connaissais pas, c'était l'aftercare. Parce qu'on parle toujours des préliminaires, Nadia, mais aujourd'hui, nous allons parler de l'aftercare.
Ouais. D'ailleurs, on ne devrait pas parler de préliminaires.
Là, je sais.
Ouais. Non, en fait, c'est exprès, justement, qu'il dit ça.
On vient chercher.
Non, c'est parce que ça fait 10 ans, nos auditoristes sont sensibilisés sur Beurre FM. Ça fait 10 ans maintenant que je martèle que préliminaires n'existent pas. J'ai commencé il y a 10 ans à le dire. On me regardait avec des yeux écarquillés. Oui, mais quand même, il n'y a pas de quand même. En fait, la sexualité, c'est... Il n'y a pas de
hiérarchie
et de fin, exactement. Et il n'y a pas de hiérarchie dans les scripts.
Ouais, parce que préliminaire, ça a un sens très précis. Ça signifie qu'il précède et anticipe quelque chose de plus important.
C'est un liminaire, et que c'est liminaire, c'est la pénétration.
Et en réalité, non, la pénétration phallo-vaginale n'est pas plus importante que tout. C'est important pour se reproduire, mais le sexe, ce n'est pas que de la reproduction, Dieu merci. Et du coup, il y a tout le reste des panels. D'ailleurs, il y avait cette fameuse, je pense que c'est la planche que je préfère dans le livre, où je montre l'intégralité des possibles, en fait, en dehors. Tu vois, quand j'ai les lycéens et même les adultes qui me demandent c'est quoi faire l'amour. Alors, faire l'amour, voilà, pour les personnes qui suivent en vidéo, voilà, ça peut prendre tout ce genre de forme. Voilà, donc on arrête de parler de préliminaire.
Et comment on fait, les enfants?
Et l'aftercare
l'aftercare, c'est plus nouveau pour moi, l'aftercare.
Mais t'as pas appris le mot aftercare en lisant mon livre, si?
Ah, moi, alors là, franchement, je savais même pas ce que c'était.
D'accord. Alors, l'aftercare, alors je vais quand même donner un contexte. C'est un mot qu'on a vu apparaître d'abord dans les milieux BDSM. Donc, concrètement, là, on est vraiment dans une expérience niche, voilà, qui concerne des personnes, des adeptes, qui, vraiment, l'aftercare, c'est l'espèce de zone, de moment tampon entre une expérience intense pour les personnes qui pratiquent et le retour au monde réel. Eh bien, voilà, on avait cette espèce de phase d'atterrissage sur la Terre. En réalité, l'aftercare, il est important et presque nécessaire après tout acte sexuel. La réalité, c'est qu'une fois qu'on s'est donné mutuellement, on a partagé beaucoup de complicité, beaucoup d'intimité, on s'est mis à nu. On ne va pas repartir dans la vie réelle.
On ne va pas fumer sa clope.
Voilà, mais en fait, juste prendre le temps...
S'endormir.
Mais prendre le temps de la gratitude, simplement, peut-être se remercier mutuellement pour le moment qu'on a partagé, s'assurer que l'autre est bien, est safe, est-ce que ça va bien. Il y a des personnes qui pleurent après l'amour, qui pleure après l'orgasme. Il y a juste, tiens, n'oublie pas d'aller faire pipi pour éviter une infection urinaire. Est-ce que tu veux que je t'apporte de l'eau? Tu as besoin de reprendre un peu d'énergie? Je te prépare un petit plat. C'est rien, mais ce sont des petites attentions qui prolongent ce moment magique qu'on vient de vivre, qui permettent de, aussi de se prévenir les infections, etc. C'est les moments, en fait, d'atterrissage ensemble et de retour à la vie quotidienne, à la vie réelle.
Juste un petit rappel culturel quand même. Alors, l'aftercare, c'est un terme récent, mais dans l'histoire musulmane, par exemple, il y a un hadith hein, quand même du prophète qui dit qu'on ne doit pas laisser sa compagne après un rapport sexuel sans sans s'être enquérie, en fait, savoir si elle a bien eu un orgasme ou si elle est satisfaite de la relation qui a eu lieu. Donc, et je suis certaine que dans les autres cultures ou dans les autres confessions, il doit y avoir aussi une historique de ce type. Alors après, c'est vrai qu'on utilise des nouveaux termes, mais en réalité, il faut juste creuser dans nos propres histoires et c'est des choses. Enfin, c'est la bienséance, en fait, tout simplement.
Ouais, ça fait partie du respect. Moi, je rappelle que quand j'avais abordé le moment de l'aftercare sur mon compte, il y a plein de personnes qui m'ont dit moi, j'ai jamais eu le droit à rien. Il y en a même qui m'ont décrit, alors je suis désolée, je vais faire un trigger warning, je vais évoquer un trigger warning. Donc,
je sais pas ce que c'est un trigger warning.
Ça veut dire,
mais si, Philippe, vous en avez fait avec Dr Mascret, arrêtez.
Non, mais il faut expliquer à tout le monde.
C'est-à-dire, je vais dire quelque chose qui peut choquer des personnes qui ont vécu des situations similaires. Donc reprenez dans 15 secondes. Il y a des personnes qui m'ont décrit avoir été mises à la porte. C'est-à-dire, ça y est, ça c'est fini. Est-ce que tu peux vite partir, s'il te plaît? J'ai un call qui arrive. Je te laisse te rhabiller dans le couloir. Non, ça c'est pas possible. Les humaines, on n'est pas des consommables. Même si on est là que pour du casual sex, même si on est là qu'avec un plan cul, un sex friend, même dans ces relations dites casual, où on est vraiment sur une sexualité récréative, votre partenaire a le droit un minimum de respect. Et le respect, c'est vraiment juste de s'enquérir que la personne est en état émotionnellement et physiquement de pouvoir derrière atterrir et reprendre une vie normale. C'est un dû.
Tout à fait. C'est un dû et c'est une suite logique du consentement.
Alors,
c'est le seul livre d'éducation aux sexualités où il y a un chapitre entier sur le consentement.
Un long chapitre.
Un long chapitre et chapitre fondamental.
Oui. Ce chapitre, j'ai des frissons. Ce chapitre, on en parle beaucoup en fait en dédicace et même en story, en DM. Il y a beaucoup de personnes qui pleurent parce que la réalité, on le sait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En France, on estime que c'est 40% des femmes qui ont déjà vécu des situations de non-consentement. C'est un chiffre du Haut Conseil à l'égalité. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des violences sur lesquelles on met ou on met pas des mots. On se sent légitime ou pas légitime parce que tout le monde a une idée assez précise de ce que c'est. En gros, le viol parfait, ça serait dans la nuit, une rue déserte, un inconnu. Non, en réalité, c'est beaucoup plus souvent votre partenaire ou quelqu'un que vous connaissez. Ça se passe souvent à la maison, etc. Et pour autant, il y a des actes qui vont vous faire sentir extrêmement mal et qui ne sont pas normaux. Ce n'est pas normal de ne pas vous demander votre consentement avant des actes qui touchent à votre intimité. Et donc, les personnes, effectivement, me parlent beaucoup de ce chapitre parce que je vais peut-être poser des mots sur ce qui s'est passé et leur dire des choses comme « je te crois, ce n'était pas de ta faute et on est ensemble, on va se reconstruire ensemble ».
Oui, mais attendez, ce que Nadia, moi je suis de la vieille génération, je vous le dis tout de suite, de cette génération qui n'a pas eu d'éducation au consentement et qui a été en couple sans éducation au consentement. Et beaucoup de personnes qui sont en couple depuis longtemps vont peut-être être surprises parce que vous lisez, puisque vous dites que finalement le consentement c'est tout le temps.
Ouais, c'est partout, tout le temps.
C'est tout le temps, même
même dans le couple,
même dans le déroulement de la relation sexuelle.
Ouais, exactement.
C'est surtout ça qui est important, en fait.
Je pense que t'es à la bonne page, Nadia.
Oui, parce que vous donnez effectivement les règles du consentement. Donc, pour ceux qui sont sur la vidéo.
D'ailleurs, c'est les règles, oui, mais les règles de validité du consentement. Mais,
exactement.
Mais beaucoup de gens qui sont en couple depuis longtemps n'ont pas forcément été éduqués à ça. Les jeunes aujourd'hui, ça leur paraît évident. De parler de consentement.
Alors, ouais et non. Enfin, oui et non. J'ai envie de te dire, je sais pas si c'est une chance, mais j'interviens dans les établissements scolaires et j'ai malheureusement des interventions à faire dans des classes où il y a des situations de non-consentement. Les situations de non-consentement, elles interviennent dès le début de la vie affective, relationnelle, sexuelle. Il y a beaucoup de personnes qui, dès leur premier copain, première copine, en première, en terminale, vont vivre des situations de non-consentement, donc des violences sexuelles, et même de la part de leur petit copain. Et ça, c'est vraiment essentiel pour moi. Donc, on a cette sensation qu'on en parle, mais c'est pas parce qu'on en parle que les jeunes comprennent ce que c'est. Il y a encore cette espèce de notion. Donc, moi, je suis intervenue l'an dernier, ça m'a bouleversée dans un lycée en première S, où effectivement, il y avait, je vais pas tout dérouler, mais il y avait une situation clairement d'absence de consentement d'une jeune femme. C'est pour ça que j'étais intervenue. Et en fait, elle a dit à l'infirmière scolaire, moi, on m'a dit que pour garder mon mec, il fallait le sucer et écarter les cuisses quand il en avait envie. Voilà. C'est encore ça, malheureusement, qu'on a c'est en 2022, on est en France, on parle de consentement, mais pour autant, pour les jeunes, il y a encore cette espèce d'injonction à être en couple. Donc quelque part, elle préférait être en couple et subir des choses clairement non consentie que d'être seule, parce qu'il y a un statut, il y a un statut social que de dire moi j'ai un mec, ça y est, donc il y a une injonction à être en couple quand même, il y a une injonction à subir une sexualité ou donner satisfaction en s'écrasant complètement sur son propre désir et son propre consentement. Ça, c'est non. Vraiment, c'est important de dire aux jeunes et d'ailleurs à toute personne que le consentement, il s'applique au sein du couple, et donc les règles de consentement, R c'est pour révocable, c'est-à-dire vous pouvez rentrer avec une personne chez vous, je vais dans un bar, je drague une fille par exemple, je la ramène chez moi et on commence à se déshabiller, tout se passe bien, et en fait il y a un moment où je me dis je le sens plus, je suis désolée, je me sens pas en mood, je m'excuse, est-ce que c'est ok que je te prépare un café et que tu rentres chez toi, parce que là je n'ai plus envie. On peut déjà être en train de faire l'amour et de dire je me sens plus, je suis pas en mood. On peut déjà être en train de, par exemple, en pleine pénétration et dire on va s'arrêter, ça va plus, je me sens pas bien. Je rappelle qu'à partir du moment où vous retirez votre consentement, d'abord vous n'avez pas à vous justifier, il est révocable sans justification et ça doit s'arrêter immédiatement. C'est-à-dire si en pleine pénétration avec mon partenaire je dis on s'arrête là et qu'il continue, le moindre coup de rein supplémentaire, c'est un viol, d'accord ? On arrête immédiatement. La deuxième chose, c'est enthousiaste. Là, on va reparler du positif. Le consentement, c'est deux désirs, deux envies vraiment, de se donner mutuellement du plaisir, de la complicité, de l'intimité qui se rencontrent. Quand les deux personnes sont ultra partantes, on est dans le consentement. Voilà. Et je rappelle que l'inverse de l'enthousiasme, c'est quand on est en train de, on dit non, je sais pas, je me sens pas trop. Mais si, allez, viens. Non, allez, viens, viens. Bon, d'accord. Ça s'appelle céder. J'ai cédé à une pression exercée et céder n'est pas consentir.
Bien, on va continuer justement à développer ces règles du consentement avec Charline qui est notre invitée aujourd'hui jusqu'à 13h dans Votre Santé.
AVS revient dans un instant, midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors Charline est avec nous, Nadia, Charline. Alors on vous appelle Charline, mais vous avez un nom.
Charline Vermont.
Mais c'est vrai qu'on vous appelle Charline. Et vous publiez donc Corps, amour, sexualité, il n'y a pas d'âge pour se poser les bonnes questions. Et toutes les questions sont permises. Il y en a 130. Et on est en train de voir les règles de consentement dans le couple. Mais le consentement, c'est partout dans la vie.
Exactement. Alors avant de laisser justement Charline continuer sur les règles, et c'est vraiment un bon élément mémotechnique, je rappelais juste que effectivement le consentement n'est pas quelque chose qui va de soi. Qui va de soi en fait dans nos sociétés, parce que c'est un problème interplanétaire, je le répète bien. C'est parce que, alors pouvez noter l'heure, parce que je vais sortir le
attention,
terme.
Lequel, voilà. Lequel dans d'accord. Les sociétés, voilà. Allez-y,
patriarcal. Parce que dans le système patriarcal, voilà, parce que c'est quand même la problématique du consentement, on en parle maintenant parce qu'on a commencé tout juste, depuis MeToo, à dénoncer les agressions sexuelles faites aux femmes, les viols, justement ces problématiques de représentation et d'érotisation, on en a parlé avec le docteur Mascret, d'érotisation de la violence. Donc je dis souvent qu'il faut érotiser le consentement. En fait, si on retravaille cette question d'érotiser le consentement, ça deviendra quelque chose de très fluide. Donc ne boutons pas sur le fait qu'on n'a pas été éduqué comme ça, parce que l'éducation, c'est justement une déconstruction permanente.
Tu parles d'or. J'ai rien à rajouter, mais c'est vrai que moi j'étais sur un plateau avec Noémie Delattre et elle disait là où le patriarcat est très fort, c'est que bon, on peut comprendre que c'est pas bien la violence, etc. Mais l'érotisation, la glamourisation de la violence sexuelle est venue coloniser notre imagination.
Exactement.
Notre imaginaire érotique. Et on va trouver extrêmement sexe un mec qui va arriver dans une pièce, plaquer une meuf contre une porte et lui rouler un patin. Et en fait, ça s'appelle juste une
agression. D'ailleurs, tu le dis, hein, Indiana Jones, c'est...
Exactement, et puis James Bond et tout ça. La réalité, c'est que ça s'appelle de la violence sexuelle, c'est de l'agression. Comment on fait pour, là-dedans, trouver le consentement sexy? Moi, quand j'ai commencé à en parler, les gens me disaient, limite, c'est mièvre. C'est-à-dire, c'est... est-ce que je peux... Enfin, voilà, il y a des filles qui me disaient, moi, un mec qui arrive comme ça, tout de suite, ça me déchauffe, tout de suite. J'ai besoin de plus...
Ça casse l'ambiance, ça.
Voilà, ça casse l'ambiance, etc. Ouais, ouais, ouais. J'ai besoin de... D'ailleurs, eh ben, non. Alors, d'abord, le consentement, ça casse pas l'ambiance, ça veut dire juste, si ça casse l'ambiance, c'est qu'il n'y en avait pas, ou alors vous étiez seul dans l'ambiance et c'est très inquiétant.
Je la reprendrai, hein. Voilà. si ça casse l'ambiance, c'est qu'il n'y en avait pas, je la garde. Ouais.
Et moi je l'ai vu, cette éducation dont tu parles, Nadia, qui est très importante et sur laquelle on travaille, nous éducateuristes, sexothérapeutes, etc., c'est que là aujourd'hui, de plus en plus de personnes m'écrivent en me disant, pour la première fois de ma vie, écoute Charline, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, j'ai été mariée, j'ai des enfants. Pour la première fois, je me retrouve à dater des nouveaux partenaires. Eh bien, on m'a demandé mon consentement pour la première fois. Et elle me dit, alors il y en a qui chialent en disant, incroyable, qu'on me fasse me sentir aussi importante, en fait, et respectée, et écoutée, et qu'on me donne le libre arbitre de choisir, j'ai envie ou j'ai pas envie. Eh bien, en fait, je me suis sentie, mais... voilà, enfin, ça y est, j'étais de nouveau au centre, finalement, j'étais de nouveau sujet de désir. Et la personne ne pouvait rien faire de plus haut, en fait, en termes de respect et à quel point j'ai été importante, valorisée. Et voilà, et j'ai dit oui en pleurant toutes les larmes de mon corps et en le remerciant. Et on a vécu une nuit où il a demandé à chaque moment où il me touchait telle zone, où il me pénétrait tel endroit, si c'était OK pour moi. Il me murmurait à l'oreille, j'ai très envie de te faire ça, est-ce que t'en as aussi envie? Elle dit, en fait, non seulement ça me déchauffait, ça me chauffait complet, ça m'excitait complet. J'étais là, oui, oui, oui. Et en fait, non, c'est le consentement, ça casse pas l'ambiance, ça permet aux choses d'advenir de manière safe et belle. Donc, allez-y.
Bah justement, ce chapitre, pardon, est tellement fondamental. Bon, déjà, il est au centre du bouquin. Ça, je pense que ça a été très bien réfléchi de ta part. Mais il va, en fait, dans la continuité d'un autre chapitre aussi, qui est la sexualité à soi, et un autre sur l'estime de soi, et voilà, la confiance en soi.
C'est important. Mais ouais.
Parce qu'en fait, pour que le consentement devienne une évidence, en réalité, il faut s'estimer. Parce qu'à partir du moment où on s'estime, où on a confiance en soi et on est assertif et assertive...
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, assertif?
Alors, l'assertivité, voilà, justement, c'est cet ensemble d'estime de soi, de confiance en soi, mais dans la relation, c'est-à-dire que finalement, je peux proposer des choses, je peux aussi exprimer des choses dans le respect de l'autre, dans le respect de moi-même d'abord, et le respect de l'autre. Et le consentement, pour qu'il devienne quelque chose d'évident, une évidence dans nos fonctionnements sociétaux, eh bien, c'est d'abord de travailler sur soi.
Oui, mais enfin, vous parlez d'assertivité, alors que certains n'osent même pas se mettre nus devant leur partenaire. Ouais. Vous voyez, il y a aussi des degrés dans la confiance en soi.
Mais d'où l'importance, c'est-à-dire, c'est difficile de se mettre à nu devant un partenaire, et d'ailleurs...
Pour la première fois, je veux dire, c'est pas simple.
Et puis, j'ai envie de dire, moi, je suis hyper à l'écoute de ce genre de personnes, en leur disant, mais il y a aucune urgence, et puis il n'y a aucune obligation d'ailleurs. Enfin voilà, on peut faire les choses de manière progressive. Eh ben, parlez-en avec votre partenaire, disant, ben moi, je suis désolée, ou je suis pas désolée d'ailleurs. Est-ce qu'on peut baisser la lumière? Est-ce qu'on peut mettre un drap sur moi? Est-ce que, voilà, tu peux y aller très progressivement? J'ai pas envie d'enlever cette partie-là pour l'instant parce que je suis pas à l'aise. Et j'ai envie de dire, vous, partenaire, vous avez un rôle à jouer pour valoriser votre partenaire et aider à lui donner toute confiance en disant, est-ce que je peux juste, par exemple, nommer les différentes parties de ton corps et dire en quoi je les trouve magnifiques.
Et alors les nommer avec les vrais mots. Hein.
Avec les vrais mots, ta chatte, par exemple, elle est unique et elle est magnifique telle qu'elle est.
Et envoyer comme ça, vous voyez, il faut marquer un temps d'arrêt, il faut mettre un bip, il faut nous préparer nos oreilles, Charline.
D'accord, alors désolée, bip.
Parce que je ne l'ai pas vu venir, donc là, sinon je donne l'heure.
D'accord,
vous voyez.
Ah bah, 11h49, t'achètes, elle est magnifique, elle est unique, etc. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas se mettre à nu en disant « Mais qu'est-ce qu'il va penser de la taille de mes lèvres et de l'odeur et du goût ? Est-ce que c'est OK ?» Je rappelle, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Okay, donc là, c'est OK d'avoir peur la première fois, c'est OK de vous poser toutes ces questions. Le mieux, c'est de pouvoir en parler avec votre partenaire et de lui dire en fait à quel point pour vous c'est un acte qui demande du courage, qui demande du temps. Il faut y aller à votre rythme, il faut être à l'écoute. Et encore une fois, le partenaire ou la partenaire a toutes les utilités des écoutes. Voilà, si je suis là et par exemple, bip, 11h49, j'ai envie de te faire un cuni parce que j'ai envie de te donner du plaisir. Et ta chatte, moi, je la trouve magnifique. Et si j'ai envie de le faire, je le fais pas du tout de mauvais cœur. Au contraire, je le fais parce que cette partie de ton corps, elle est magnifique. Parce que je sais que si tu me guides, on va pouvoir vivre un super moment d'intimité. Alors, t'as envie de le faire ? Tu me dis quand t'es prête et si t'en as envie. Voilà.
Alors, dans la continuité, juste Philippe, désolé, dans la continuité de ce que vous dites, c'est important. Il faut rappeler que ce type de travail donc qu'a fourni Charline, qui sert à toute la société en définitive, c'est un travail à faire à titre individuel. Donc, si effectivement j'ai des problématiques pour me mettre à nu devant une personne, c'est pas la problématique de se mettre à nu qui est le problème en soi. Le problème, c'est la représentation que l'on a de ce qu'est un corps parfait, un corps stéréotypé, un corps. Donc ça veut dire que ce type d'ouvrage permet un travail individuel, certes, donc d'assertivité, d'estime de soi et tout ça, mais aussi un travail sociétal, parce que l'éducation aux sexualités, c'est aussi déconstruire les représentations que l'on a, parce que ces représentations, en fait, elles nous habitent, et elles nous obsèdent, et c'est ça qui revient continuellement. Je dis toujours, le patriarcat, il s'arrête pas à la porte de la chambre à coucher. Il est avec nous sous la couette. Donc,
il
forcément.
Concerne tout le monde. C'est-à-dire, là, j'ai parlé des corps dits féminins. Mais on peut également évoquer la même chose
Chez les hommes.
Chez les hommes, qui peuvent être également complexés
par la taille de leur pénis.
Entre autres, c'est toi qui l'as dit. Par la taille, par la forme, etc. Ouais.
Moi, ça m'a fait rire. C'est pour ça que je dis, on est dans la vraie vie.
Évidemment qu'on est dans la sexualité.
Alors,
c'est la vraie
ça pèse combien, un pénis ?
Alors,
180
grammes.
Moi, j'ai retenu ça.
Au repos, effectivement, on est sur 180 grammes.
Parce qu'après, il faut rajouter le flux sanguin,
etc. Et effectivement,
il y a des pénis de chair et des pénis de sang.
Ah, mais dis donc, mais c'est incroyable. Hein non, mais t'as bûché, quoi.
Non, il y a certaines parties que je bosse plus que d'autres, en fait.
D'accord.
On en a parlé avec un urologue
qu'on
a reçu dans notre émission.
Mais c'est vrai que ce sont des notions que tout le monde n'a pas forcément.
C'est ça, arrêtez de comparer vos pénis au repos. De toute façon, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, il y en a qui, pénis de sang, il va venir se gonfler, il va presque tripler de volume en érection. Un pénis de chair, il va faire x1,5 en moyenne. Donc, effectivement, on ne compare pas. Et indépendamment, et quand bien même ils n'ont pas la même taille en érection, eh bien, c'est effectivement pas la taille qui compte, c'est comment on s'en sert. Et puis, je rappelle que, à la fin, même le plus gros au repos, il fait quand même 180 grammes ou peut-être 200. Et si vous êtes une personne, un homme de 1m70 et que vous pesez 70 kilos, vous avez 70 kilos pour donner du plaisir à votre partenaire et pas seulement ces 180 grammes entre les jambes.
N'empêche que cette question du pénis, elle est centrale chez les hommes et beaucoup pensent que finalement, la taille et la grosseur du pénis, c'est important. Ça, c'est quand même une idée qui est ancrée chez les hommes.
C'est une idée qui est ancrée par le système, excusez-moi.
Alors, directement, je peux faire un tac au tac, je vais te répondre 6%. T'as compris pourquoi 6% ? 6% seulement des femmes
ont un plaisir,
atteignent l'orgasme par seule pénétration vaginale. Donc si vous pensez que votre pénis est important, rappelez-vous, il n'y en a que 6% pour qui éventuellement ça peut avoir un impact. Pour les 94 autres pourcents, ce qui va avoir un impact, c'est la manière avec laquelle vous allez stimuler avec vos doigts, vos langues, des jouets, tout ce que vous avez à votre disposition, vous allez stimuler la partie externe du clitoris, donc le gland, le capuchon, et pour 94% des femmes, c'est ce qui va donner accès au plaisir, à l'orgasme.
Bon. Et toutes les autres zones érogènes.
Et voilà, et on en parle, et on en parle des tétons, etc., et des fesses, et voilà, du reste.
On en parle dans la prochaine émission.
Hein? D'accord.
Et de la prostate.
Voilà. Donc, il faut
Et de la prostate. Et on en parle de la prostate dans la prochaine émission.
Déphalosisons.
Oh, c'est.
Voilà, déphalosisons. La sexualité. Bah oui.
Non, mais votre
parce que c'est ça le problème.
Votre livre, il est vraiment dans la vraie ligne. Alors, il n'y a pas de questions tabou.
Parce qu'en général,
on dit c'est tabou, mais il n'y a pas de tabou dans les livres qui disent qu'on lève les tabous. Alors, vous, il y a quand même beaucoup de tabous que vous levez.
En fait, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. Je rappelle que sur Instagram, il y a de la censure. Donc moi, je ne suis pas libre de mes propos et encore moins de mes illustrations.
Ouais.
Moi, ce que je dis souvent, c'est que pour faire l'éducation à la sexualité ou aux sexualités, il faut montrer les choses pratico-pratiques. Alors, il y a des choses que je n'ai pas besoin de montrer quand je parle des IST, quand je parle du consentement, etc. Quand je reviens à parler d'anatomie, de physiologie, du plaisir, à un moment, il est nécessaire de montrer les organes, de montrer comment ça fonctionne. Et bien, ce livre, on s'est fait plaisir. Il y a plein d'illustrations et je pense qu'effectivement...
Ça manque d'odeur, mais ça viendra pour la prochaine édition. Mais il y a aussi... Non, je dis ça parce qu'il y a aussi les odeurs dans votre livre. Oui. Mais c'est des sujets dont personne ne parle jamais.
Bien sûr,
donc
il y a les
on
odeurs.
Croit toujours que tout le monde est une princesse ou un prince avec des paillettes.
En fait, ce qui est chouette, c'est que Charline, elle a désaseptisé, en fait, ce que depuis des siècles s'est installé, c'est-à-dire une sexualité hygiéniste. Donc,
Les fluides, en fait. Voilà. On est fait à 70% de flotte. Incroyable, quand on fait du sexe, quand on fait l'amour. Eh bien, il y a des fluides qui viennent se mêler. Il y a de la salive, il y a de la mouille, il y a du liquide séminal, il y a du sperme, il y a du squirting. Bref, il y a tout ça qui se mêle. Il y a des résidus si on fait du sexe anal. Et tout ça, c'est OK. On est vraiment dans la vraie vie. Ça fait partie des expériences humaines qu'on peut vivre.
Arrêtez de vous préoccuper de la propreté de votre couette.
Exactement. Il y a de la lessive pour ça.
Bon, alors la suite est dans le livre, Nadia, que vous montrez corps, amour, sexualité. Il n'y a pas d'âge pour se poser les bonnes questions, votre éditeur.
Donc c'est le tome 2
C'était pour les enfants, celui-là.
Voilà.
Ouais. Corps, amour, sexualité.
Alors je vais rassurer tous les parents, hein, pour les enfants, eh bien on ne parle pas en fait de sexe. C'est-à-dire, ça s'appelle sexualité parce que c'est un mot générique. D'ailleurs, je me bats pour qu'on appelle les cours en primaire et en collège éducation à la vie affective.
Relationnelle.
Voilà, relationnelle, honnêtement. Mmh. Voilà, donc le plus important, c'est de leur faire prendre conscience de leur intimité, du consentement, de parler de puberté. Mmh. Mais effectivement, je rassure les parents, là, on ne parle pas de sexe. Par contre, là, je m'en suis donnée à cœur joie.
Et d'ailleurs, tu le mentionnes bien, hein, tu dis que c'est un public adulte accessible dès la majorité. Donc je le précise pour ne pas que les parents se trompent en achetant ce livre-là et se disant bon alors les loulous on va
voilà donc ça c'est pour vous
voilà
et ça c'est pour vos enfants
et ça c'est pour eux
voilà.
Et ce sont des questions à hauteur d'enfant. C'est toujours ça.
Alors peut-être que je vais finir pour finir sur les deux livres. Je me suis entourée d'un comité médical éducatif. Donc le livre pour enfants avec pédopsychiatre, psychologue, médecin, gynéco. Le livre pour adultes, à peu près la même team avec urologue en plus. Voilà, écoutez, voilà, je suis hyper fière de ce travail collégial qu'on a fait. Qui s'adapte à la fois pour les enfants à leur maturité et pour les adultes à leurs questions.
Bien, on fera une émission sur les enfants, sur les questions que se posent vos enfants. Alors merci d'avoir été avec nous. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci Charline d'être venue avec nous. Nadia, on vous dit à la semaine prochaine. Et passez une très belle journée santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.